Bonjour Patrice Wallet, consultant en développement commercial.
Bonjour, c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise.
Bonjour et bienvenue sur RLP Business numéro 30 aujourd'hui avec Stéphane et Patrice en direct. Nous sommes en direct toujours depuis Coulommiers-Chamiers, Périgueux, la Dordogne pour parler d'économie, de business, de commercial, d'activité, de professionnel, de chef d'entreprise. Patrice, tu vas bien? T'as passé une bonne semaine?
Oui, merci. Très bonne semaine. Très très bonne semaine.
Bon. Aujourd'hui, alors, de Mercedes à Renault, plus de 30 ans de métier, de service client, de commercial, de particulier, de professionnels, c'est Alexandre Ménard que nous recevons aujourd'hui. Monsieur Ménard, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien, ça va?
Très très bien.
Bon, très bien. Et bien. Écoutez, nous vous rejoignons dans quelques minutes après les actualités.
Les actualités.
Actualité, actualité. Alors déjà, qui sait écrire Becherel? Les jeunes, vous savez écrire Becherel, là? Je vois des sourires un peu crispés là-bas, lui il est blasé. Les anciens comme moi, on est mort de rire. Bon, le classement PISA de cette année confirme ce que l'observation générale nous permet de constater depuis maintenant plusieurs années. Le niveau scolaire de notre pays est en chute libre. Donc j'avais effectivement constaté un fort décalage quand j'avais ramené ma fille d'Asie pour la scolariser en France. Eh ben non, je ne rêvais pas. Alors déjà à l'époque, dans les années 2000, le niveau orthographe en grammaire sur les lettres de candidature et autres curriculum vitae pour être parfois, dirais-je, comment on dirait, voilà, surprenant. C'est ce qu'on a appelé, quelques années plus tard, le syndrome Nénuphar, N-E-N-U-F-A-R. Certains ici comprendront peut-être. Donc ça, c'est pour la partie écriture, parce que pour postuler à un job, il faut savoir écrire. Donc ce sentiment s'est ensuite confirmé. J'ai d'ailleurs toujours des gens qui m'envoient de temps en temps leur CV en disant qu'ils adoreraient travailler chez moi, alors que mes bureaux de Paris sont fermés depuis 2002 et ceux de Bangkok depuis 2014. Donc ça, c'est pour la partie lecture, parce que pour candidater à un job, un travail, il faut lire, il faut écrire, il faut savoir aussi lire, c'est important. Bon, néanmoins, jusqu'à maintenant, puis surtout quand on regardait les prétentions salariales des ingénieurs débutants, on avait l'impression qu'ils savaient compter, hein, enfin du moins qu'ils essayaient. Mais là, catastrophe, la dégringolade en mathématiques est historique. La France est désormais classée 23e dans le niveau mondial des élèves de 15 ans, derrière l'Irlande. Alors moi j'y étais, quand on sait qu'on passe derrière l'Irlande au niveau scolaire, ça fait un peu peur quoi. Derrière l'Estonie, l'Estonie est meilleure que nous aujourd'hui. Donc sans surprise, les champions d'éducation scolaire sont toujours à Macao, Hong Kong, Tokyo, à Singapour et, disons-le, les écoles internationales de Bangkok. Ah oui, et puis là-bas, on déprime pas, hein. Parce que ici, disons-le, je discute régulièrement avec des psychologues qui m'indiquent que les enfants sont soumis à des pressions scolaires incroyables, que la compétition est infernale et qu'ils le vivent mal. Et d'ailleurs, je viens de faire une émission consacrée à la surmédication des enfants, que l'on shoot allègrement aux médicaments pour adultes, et dont les directrices d'écoles primaires indiquent qu'entre 30 et 50% de leurs effectifs ont des suivis psychologiques, d'orthophonie ou de traitement psy à prendre à la cantine. Donc c'est certainement cela, la fameuse modernité occidentale, le renversement du rôle de l'école, qui n'est plus là pour instruire, mais pour éduquer à la place les parents, et visiblement s'occuper de tout, d'absolument tout, sauf de ce qui le regarde au départ. Parce que le problème, voyez-vous, c'est qu'après, tout va avec. Par exemple, ont permis de conduire, les taux de réussite à l'examen tombent carrément à moins de 50% en Ile-de-France. Oui, ça va avec, quand on sait ni lire, ni écrire, ni compter, forcément, on sait pas conduire. Bon, donc tous ces charmants chérubins ultra-performants, après, ils tentent de venir dans le monde du travail. Et là, c'est carrément à la fête. Ils disent, ils le disent tous, hein, ils ne trouvent rien qui correspond à leurs aspirations. Et puis les employeurs, eux, se plaignent parce qu'ils trouvent personne pour venir travailler pour eux. Et puis en plus, comme on leur a bien expliqué qu'être entrepreneur, gagner de l'argent, faire des sous, c'était mal, au final, messieurs, que peut-on dire du niveau des jeunes qui arrivent dans le monde du travail? Quand il y a là que vous croisez, ce que vous observez, là, qu'est-ce que vous en pensez?
On va dire qu'on peut effectivement maintenant remarquer, si on reçoit un CV, s'il est bien rédigé et sans faute, et c'est pas si courant.
D'accord.
Maintenant, ça me semble pas dramatique, parce que je crois que, comme vous l'avez dit, les gens font plus de fautes, on dramatise moins, mais on lit moins, on comprend moins. Moi, ce que je retiens plutôt, c'est la capacité, le bon sens, l'initiative, l'envie, l'humeur. Et ça, c'est peut-être pas quelque chose qui s'apprend, mais qui est plus ou moins inné.
Mais est-ce qu'on leur apprend ça à l'école? Est-ce qu'ils viennent le chercher chez vous quand ils travaillent, ou est-ce qu'ils viennent avec ça déjà dans leur acquis, dans leur bagage scolaire?
Sans doute pas, on voit une génération plutôt pessimiste. Moi j'ai envie que les gens soient heureux chez moi, de bonne humeur. On peut se tromper, c'est pas interdit, le tout c'est de pas reproduire. On peut prendre d'initiatives, il faut les mesurer.
On a un problème, on corrige, bien sûr.
Évidemment. Moi les gens qui sont avec moi aujourd'hui sont des gens qui viennent de l'éducation et qui étaient en alternance. Donc je trouve que c'est une passerelle fantastique pour rejoindre les entreprises.
L'alternance, on en revient encore à l'alternance, bien sûr.
Et c'est des gens qui ont commencé en alternance et que j'ai recrutés. Donc ils n'étaient pas parfaits, pas prêts à l'emploi.
Non, mais vous les avez accompagnés durant leur formation.
Absolument. Et c'est le potentiel et l'envie qui me semblent bien plus déterminants. Moi, je suis dans le monde de l'automobile. Donc on a affaire à une population classique. On n'a pas d'élite, on n'a pas de pauvres gens. On a toute la population. Et je m'aperçois qu'une bonne partie de nos interlocuteurs sont assez en phase avec mes gens. Voilà.
D'accord.
Donc c'est pas la peine d'avoir un langage policé, élitiste. On parle de voiture, on parle de quotidien, on parle de consommation, on se comprend bien. Mm-hmm. Mais c'est vrai, quand on rédige un document, un contrat, un mandat, faire des fautes ou ne pas être vigilant sur ce que l'on écrit et sur le sens que ça a, ça peut être lourd de conséquences. Donc en ce sens, oui, il faut être vigilant et c'est mieux d'arriver avec une bonne connaissance du français et une bonne compréhension de ce qu'on lit, de ce que l'on écrit, de ce que l'on fait écrire.
Oui, et puis un peu tout au général, de manière générale, tout à fait. Patrice, toi qui es impliqué auprès des entrepreneurs de manière générale.
Non, moi ce que je n'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus parce qu'on pourrait faire franchement une émission de 3 heures,
sujet,
de 4 heures. Non, moi, ce qui m'agace franchement, c'est qu'une fois de plus, politiquement, quand on se dit surpris par ce classement et que ça va faire la une des journaux, ça va faire la une de tous les débats possibles, alors qu'on sait très bien qu'on a un niveau qui baisse d'année en année, ça on le sait bien, puisque de toute façon, il a été voulu, il est orchestré par nos politiques hein, depuis des années, hein, qui offrent le baccalauréat à tous les Français.
Parce oui, que politiquement, c'est ça.
Parce que politiquement, parlant, c'est important pour eux d'offrir le baccalauréat à tous les enfants. On voit le résultat, donc arrêtons d'être surpris de quelque chose qui est connu de tous et revenons peut-être à des choses un peu plus intéressantes pour la société. Mais
très
ça,
bien.
Ça sera une émission...
Oui, non mais on va en parler avec M. Ménard.
Oui, moi j'adorerais d'ailleurs qu'ici, à RLP, on puisse réunir, j'ai envie de dire, les acteurs de l'enseignement, les acteurs de l'éducation, des représentants aussi de parents d'élèves, parce que là aussi, on a mis les parents d'élèves au cœur, j'ai envie de dire, de l'école. Est-ce que c'était un bon choix? On peut en débattre. Bon, en tout cas,
plus de passerelles entre l'éducation scolaire et le monde professionnel.
Aujourd'hui, on va parler d'automobile, on va parler de bagnole.
Tout à fait.
On va parler de trucs qui plaît bien aux mecs et qui plaît bien aux filles hein, aussi. Et puis, on en a besoin.
Allez, ne bougez pas, c'est juste après ça.
L'invité de la semaine.
Alexandre Ménard est notre invité aujourd'hui. Alexandre Ménard, c'est le patron de Auto Easy qu'on connaît sur Boulazac, une structure en face de l'Hyper-U. On est dans la voiture et on va discuter un peu de ce produit qu'on a tous, dont on a besoin tous pour nous bouger, nous déplacer. La voiture, le marché de la voiture. Alexandre Ménard, merci d'être avec nous.
Mais je vous en prie, merci de m'avoir invité.
J'ai envie de vous dire tout de suite, Alexandre, vous n'êtes pas garagiste, hein, on parle de voitures, vous n'êtes pas concessionnaire. Quel est un peu votre rôle dans le monde de l'automobile, votre place?
Alors, c'est une bonne question d'introduction. Du coup, nous sommes une alternative, oui, qui correspond à une problématique. En fait, on s'adresse essentiellement à des particuliers qui ont pour souci de vendre leur voiture, de la valoriser au mieux. Il existe des solutions. Si on renouvelle sa voiture, on peut aller chez un concessionnaire. Elle va être reprise accessoirement à un bon prix ou pas. Ça, c'est l'arbitrage de chacun. Nous, ce que l'on propose, c'est sans avoir d'obligation de racheter une voiture, de trouver une solution ou pour qu'on la rachète à un prix donné ou pour qu'on nous mandate pour la vendre dans les meilleures conditions en sécurisant plein de domaines. D'abord, vendre une voiture, c'est pas sans risque. Surtout si on est particulier.
Ça devient compliqué aujourd'hui, hein, quand même.
C'est compliqué et légalement, c'est risqué.
Beaucoup
voilà.
De régulation.
Il y a une responsabilité, c'est le code du commerce. Hein. Même si on vend une voiture et qu'on est novice, on a 2 ans de responsabilité vis-à-vis de l'acquéreur. Il a 2 ans pour se retourner contre vous. La première année, à vous d'expliquer que vous avez tout bien fait, que le rappel constructeur a été fait, que vous l'avez bien amené chez votre mécano, qui était compétent, que tout a été bien fait. L'année qui suit, 12 mois supplémentaires, c'est long dans la vie d'une voiture, ça va être à l'acquéreur de dire « mon turbo il a lâché, mais je me souviens, il y avait un petit peu d'huile, est-ce que vous avez bien fait ça ?» On ne va pas effrayer les gens, c'est pas du tout ça. Mais au-delà de confiance qu'il peut y avoir entre un acheteur et un vendeur, la cession des papiers, le paiement, le risque que l'on vient d'évoquer. D'autant plus qu'au-delà de cette problématique classique, pour acheter une voiture, il faut un financement. C'est plutôt une solution qu'on ne peut pas trouver quand on est un particulier. Pour nous, c'est notre métier, c'est un de nos services. Pour gommer ce risque dont on parlait, on va adosser des garanties ou des extensions de garanties. Pour ça, on va partir en transparence avec le vendeur, partant de sa voiture, qu'est-ce qu'il a fait comme entretien. On a des outils qui nous permettent de savoir ce qui aurait dû être fait, s'il y a eu des rappels constructeurs majeurs, s'il y a des éléments de sécurité. On pose un préambule, on fait un état des lieux, en fait, qu'on pourra encore. Et à partir de là, ça va nous aider à positionner le prix de la voiture d'abord, à la vendre en confiance et quelquefois faire une remise en état qui n'est pas toujours très chère d'ailleurs, mais qui va sécuriser tout le monde, d'abord le vendeur pour sa responsabilité et bien entendu pour l'acheteur, parce que quand on fait un achat, c'est mieux s'il est mesuré, choisi, et on a cet œil-là de professionnel.
C'est important ce que vous nous dites, Alexandre, parce que vous êtes en train de nous dire que vendre une voiture à aujourd'hui, c'est pas si simple que ça l'a pu être à une époque. Parce que moi, je me souviens, bon, des bagnoles, on s'entendait avec l'acheteur, on se tapait dans la main, on se donnait un peu de liquide pour être rassuré, et puis ciao, bye bye, il m'a acheté ma bagnole et on se reverra plus de notre... À aujourd'hui, ça, les relations sont plus les mêmes hein, entre l'acheteur et le vendeur. Pourquoi ? Parce que il y a des enjeux économiques. Une voiture, à aujourd'hui, les réparations coûtent très cher, peuvent coûter même une petite fortune. Donc, il y a la responsabilité du vendeur. Et même en tant que particulier, vous nous l'avez dit, hein, c'est il y a le code du commerce, pardon, et tout ça, ça peut mettre un particulier dans une situation qu'il ne maîtrise pas, avec un acheteur qui lui, j'ai envie de dire, qui le met au tribunal, hein, pourquoi pas, on voit ça de plus en plus. Ça devient lourd quand même de vendre une voiture.
Oui, alors on fait pas peur aux gens, c'est une réalité.
C'est plus de l'information qu'autre
absolument.
Chose.
Hein. On a un rôle à jouer qui est celui de rassurer le vendeur, l'acheteur, de faire une transaction en toute transparence et en jaugeant tous les éléments qu'on a en notre capacité. On a des outils qui nous disent si la voiture a été accidentée, c'est pas forcément très grave, si elle a été réparée dans les règles de l'art. On sait si la voiture a été importée, on sait si elle est gagée. Il y a beaucoup d'éléments qui font que c'est quand même pas une transaction anodine. Il s'agit d'un bien important, c'est pas une maison, c'est pas l'achat de sa vie, mais quand même, pour beaucoup de gens, c'est un budget, c'est un outil de mobilité, et ils souhaitent partir avec quelque chose qui est en phase avec leur demande, avec le minimum de transparence. Quand on est particulier, c'est assez compliqué d'offrir cette transparence parce qu'on est subjectif. Quand on est acheteur, on est à distance, on n'a pas forcément tous les éléments. Notre métier, c'est de réunir le maximum d'éléments pour pouvoir faire qu'on va réaliser une vente, prendre tout en main. Notre argument, c'est celui-ci, on fait tout pour vous et que chacun reparte serein, en ayant fait un chèque et en ayant la voiture conforme à ce qu'on a défini, et pour le vendeur, en ayant traité un sujet.
Donc vous vous placez, Alexandre, la franchise que vous représentez, c'est Auto Easy, hein, Auto Easy sur Boulazac. Vous vous présentez comme un accompagnateur, en fin de compte, de la transaction, parce que vous n'êtes pas un garagiste, vous n'achetez pas des voitures d'occasion pour les revendre, c'est pas ça votre business.
Alors, on le fait aussi, en fait. Il y a deux alternatives majeur. J'ai besoin de vendre ma voiture. Je vais chez Auto Easy, pour ne pas le nommer, qui sont des gens très bien, je vous le dis en catimini, mais ce sont des gens très bien.
J'en connais sur Boulazac qui sont bien.
Deux solutions. Soit il y a une urgence, c'est une voiture qui est en trop, je ne veux pas m'embêter, combien vous me la rachetez ? À partir de là, on prend l'entière responsabilité et la totale responsabilité, donc là il n'y a plus de recours, on fait un virement, on fait la cession de propriété.
C'est donc, pas un dépôt-vente, vous la rachetez et vous...
C'est ça. La première alternative, on rachète la voiture à un prix donné. On se cale sur la valeur du marché, sur la valeur de l'Argus, sur le risque du moment, sur la valeur fluctuante des véhicules d'occasion. Deuxième alternative, je veux tirer un petit un profit plus important de ma voiture, j'ai un petit peu de temps, je mandate l'agence automobile, en l'occurrence AutoEasy, pour prendre la main sur moi. Je vais mieux diffuser, parce qu'au lieu de faire 3 photos, voilà, va vite et c'est gratuit, on est très vite au fond des annonces et on n'est pas vu. Nous, on va en faire 20, on paie très cher pour qu'elle remonte, on utilise plusieurs médias pour que la voiture soit diffusée sur le bon média, c'est pas la peine d'aller sur la centrale auto pour une Clio de base, et inversement, une voiture premium noyée sur le bon coin. Donc notre métier, c'est de diffuser au mieux là où il faut. On va savoir apporter ses garanties, et on les écrit, on va savoir apporter un financement, on va pouvoir faire une reprise le cas échéant, si nécessaire, lorsqu'une transaction va être faite. En somme, on est des apporteurs de solutions, on est des facilitateurs de transactions. Pour vous situer, on arrive à nos fins pour 9 mandats sur 10, ce qui est très important. Ce qui a changé un petit peu, c'est le délai. Nous, on est en activité depuis un peu plus de 2 ans. On était sur un marché tellement où il y avait une demande tellement forte qu'en 3 semaines, une voiture était assez facilement vendue, pour peu qu'elle soit à un prix de marché quand même. Aujourd'hui, il y a une offre importante, pléthorique de véhicules d'occasion.
Ça s'est un peu inversé.
Et ça s'est un peu inversé. Il reste toujours une demande forte, hein, parce que les voitures neuves sont sur des prix très élevés aujourd'hui. Il y a différentes énergies, les gens sont un petit peu perdus. Donc il y a toujours un marché élevé, une demande élevée. Mais par contre, le prix des voitures d'occasion est de revenu, est revenu normal. Voilà.
D'accord. Ah, aujourd'hui, qu'est-ce que cherche le consommateur? Est-ce qu'il cherche un outil de déplacement? J'ai envie de dire, quelque part, il n'est pas très regardant ou il n'est pas très intéressé par l'automobile, ou il y a encore ce facteur, cet élément plaisir de choisir sa belle auto, ma petite cocotte qui me déplace, avec laquelle je peux communiquer d'ailleurs quand je suis au volant. C'est quoi la relation du consommateur et la voiture aujourd'hui?
Alors, nous, on n'est pas ciblé sur des voitures premium, donc le côté plaisir reste relatif. Je suis désolé, reste relatif. C'est vraiment très utilitaire. Après, pour vous situer, quand je dis qu'on diffuse bien, plus d'une voiture sur 2 est vendue à l'extérieur de notre département. Donc, à partir de là, il y a des régions où il y a un petit peu plus d'argent, où le côté plaisir ou confort ou gamme de voitures est plus important. Si on se situait dans notre département, c'est vraiment de la mobilité à un prix raisonnable et raisonné. Voilà,
parce qu'on en a besoin.
Absolument.
Parce qu'on a besoin, on a un grand département, on n'a pas un tissu de mobilité très structuré, enfin comme dans une grande ville ou comme dans d'autres départements. Donc on a besoin de notre petite cocotte à 4 roues qui nous permet de nous déplacer un peu partout.
Bon, cela dit, on vend des très belles voitures aussi, et heureusement, il y a toujours un côté plaisir.
Mais on peut aimer aussi sa petite Twingo, hein, aussi. Hein,
C'est une voiture remarquable qu'il faudra conserver. Hein,
Moi, je me souviens, maman parlait avec sa 2 chevaux quand à l'époque, hein, quand j'étais
petit. Elle avait un immense avantage, c'est qu'elle ne répondait pas.
C'est vrai, elle était mignonne. elle était toujours d'accord avec maman, elle ne répondait pas.
Toujours très utile pour une voiture.
Stéphane, voilà. Tu veux peut-être...
Oui, j'ai 2 questions qui me sont venues en vous écoutant, là... Monsieur Ménard, dites-moi là, donc si jamais j'achète une voiture et que le joint de culasse lâche dans les 6 mois, il y a une responsabilité ?
Ah ben, y a toujours une responsabilité. Dès qu'il y a un problème, on va chercher un responsable, là il y a une responsabilité.
Ah, je ne sais pas, moi j'ai changé le moteur, je ne suis pas allé voir le vendeur, j'aurais dû ?
Alors, c'est plus complexe que ça, ça ne se résume pas à un oui et un non. Dans une notion de garantie ou d'engagement, il y a une usure qui peut être normale pour un constructeur. Un joint de culasse, je ne suis pas spécialiste de la mécanique, j'ai une vue assez professionnelle, mais on s'entoure de professionnels quand il s'agit de déterminer une problématique particulière. Joint de culasse, souvent, c'est qu'il y a eu une chauffe moteur, ou qu'il y a eu...
Ouais.
Bon, donc il y a déjà eu un problème en amont. C'est pas normal qu'il y ait un joint de culasse...
C'est pour ça qu'il la vend, d'ailleurs, la voiture. Hein.
J'espère que non, mais c'est vrai que... L'enjeu qu'il y a quand même derrière la voiture d'occasion, c'est cette espèce d'opacité qui reste. En fait, j'ose espérer, mais on peut le prouver au quotidien dans notre démarche, ces histoires de trafic de compteurs, de voitures mal réparées, en tout cas, elles ne sont pas chez nous. Et je ne veux pas qu'elles soient chez nous. Et même en faisant bien, même en expliquant bien, même en faisant bien un état des lieux, vous savez, il peut arriver des choses.
Alors ça, ce que vous me dites là, très clairement, c'est une question qui me trotte dans la tête depuis un certain moment. Est-ce que c'est à cause de tout cela, des régulations, des risques, qu'il devient de plus en plus difficile de trouver des voitures à petit prix?
Absolument. Ah, c'est une des bonnes raisons. Des voitures en dessous de 5000 euros, ce qui est relatif à cette notion de petit prix. Hein. 5000 euros, ça, c'est beaucoup d'argent ou pas beaucoup, ça dépend comment
j'ai acheté une 607 qui était magnifique à 3000 balles. Elle avait un moteur V6, l'intérieur en cuir, et c'est de la voiture à Sarkozy, c'était magnifique. Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, je ne suis pas certain que je puisse la retrouver à ce prix-là, parce que personne ne va prendre le risque de me la vendre, en fait.
Il y a un petit peu de ça. Sans D'accord. doute pas un professionnel, en tout cas.
D'accord.
Maintenant, on peut trouver aussi des voitures un petit peu anciennes, avec une motorisation particulière, qui ont été très bien entretenues, qui ont été très bien construites, et où le risque n'est pas écrit.
Des amoureux de la voiture qui en ont pris soin.
Et heureusement. Ouais. Mais ça va faire la différence de l'approche tarifaire et de sa valeur. Si bien que, quand on doit faire une estimation, souvent les gens nous disent « mais ma voiture, elle est belle et elle vaut ce prix-là ». Nous, pour la confiance, quand on fait une estimation de voiture, on veut voir le propriétaire, la voiture, pouvoir faire le tour, échanger.
Je me place du point de vue du consommateur. En fait, tout a beaucoup augmenté, que ce soit les matières premières, l'huile, les pièces, le prix des réparations. Et maintenant, le prix des voitures d'occasion aussi a énormément augmenté. On revient encore sur un problème de responsabilité et de surrégulation.
Alors, le positionnement tarifaire des voitures, c'est le marché qui le pilote presque, en fait. Il y avait peu de voitures, il y a une grosse année, beaucoup de demandes, les voitures étaient anormalement chères. Moi, j'ai vendu des voitures plus chères que n'avaient acheté les clients un an ou deux ans avant. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais c'est vrai que la responsabilité, le juridique, le fait que tout le monde ait une assistance juridique, que ce soit assez facile d'entamer une procédure, limite la recommercialisation avec une certaine tranquillité des vieilles voitures.
Alexandre Ménard, vous avez ouvert votre franchise, enfin votre entreprise, il y a deux ans, hein, c'est ça, deux ans et demi.
On a fêté l'anniversaire début novembre.
Récent. Deux ans, avec l'anniversaire d'ailleurs de l'Hyper-U, parce que l'Hyper-U fêtait son anniversaire, c'est 50 ans lui. Bon, c'est une grande dame, c'est l'Hyper-U. Donc, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a deux ans, vous avez monté votre structure. Est-ce qu'on peut... Comment vous avez vécu cette création d'entreprise avec tous les problèmes qu'ont les chefs d'entreprise à aujourd'hui, le recrutement des salariés, et puis il n'y a pas que ça comme problème. On est sur un marché qui est assez facile, qui est assez... Qu'est-ce qui vous motive, en fin de compte, pour avoir fait ça? C'est un peu la question. Je tourne autour du pot, mais moi, j'aime bien regarder l'humain et dire, mais pourquoi il a été dans cette aventure-là?
Dans ce bazar-là, alors qu'il était cadre, salarié, confortable, bien bordé. Le Covid est passé par là.
Ouais.
En vieillissant, on a un autre regard sur les choses. J'avais vraiment envie de mettre en œuvre quelque chose qui soit utile. Et s'il me semble que c'est utile, c'est que j'ai été moi-même confronté, ancien cadre, acheteur ou vendeur dans l'automobile ou le véhicule industriel, à la difficulté de vendre les voitures de mes enfants, qui étaient des jolies autos. Et j'ai fait comme tout le monde, j'ai passé une annonce sur le Bon Coin et j'ai eu toute la France à la maison, je la voyais un peu grise, je vous la réserve mais il me faut le financement.
Et les emmerdes arrivent.
Elle est super belle mais il faut que mon épouse la voie. Dès que j'ai vendu ma voiture, je vous paie mais je sais pas. On pose le sujet, est-ce qu'il y a un petit bidule qui règle ce problème? Les agences automobiles ont ce rôle-là, se développent pour ça, et ça permet réellement une tranquillité. Donc l'envie de passer de l'autre côté de la barrière, bien sûr, si je ne le faisais pas maintenant.
Et puis AutoEasy est une franchise, je crois, il vous apporte plein d'outils, peut-être.
Alors, vous avez raison, l'accès à l'entreprise est plus facile quand on part sur un concept existant avec des outils qui fonctionnent. Vous avez raison, ça a été le facilitateur aussi.
Je comprends. Alors, je voulais vous demander, vous qui avez plusieurs dizaines d'années d'expérience, hein, c'est quand même, c'est un avantage quelque part, parce que, je veux dire, on apprend des choses avec le temps, hein. On parlait d'éducation scolaire auparavant, mais il y a le théorie, mais il y a la pratique aussi, hein. Alors, qu'est-ce qui a évolué en 30 ans dans le marché de l'automobile en France? Qu'est-ce que vous avez vu? Quelles sont les différences par rapport en 93, en 2023?
Tout.
Mais encore.
Alexandre a raison, parce qu'il y a entre le garage d'il y a 10 ans, les collaborateurs aussi dans le garage, enfin, il y a eu quand même beaucoup de changements.
Les mentalités, l'automobile, vous le disiez justement, il y avait un côté plaisir, il y avait un côté renouvellement, il y avait un côté image.
On parlait d'un moteur pour une marque,
il y avait des choses. On pouvait parler d'un moteur, d'un look. Aujourd'hui, on est revenu à de la mobilité.
Elles se ressemblent toutes.
Ouais, aussi. Il y a quand même des différences, mais L'organisation de la distribution pouvait connaître son interlocuteur concessionnaire, son agent de proximité. Aujourd'hui, on a affaire à des groupes. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, hein, mais c'est cette réalité-là quand même.
Il y a eu une concentration du nombre d'interlocuteurs, du nombre d'intermédiaires. Il y a moins de gens, en fait.
Absolument. Et des gens qui sont un petit peu déresponsabilisés, des gens qui ont beaucoup de limites. Et on en parlait tout à l'heure un petit peu en off. On ne trouve pas des gens très épanouis, il me semble, dans ce monde-là, alors que ça devrait être la joie. Mais il s'agit de dépenses, de mobilité, de carburant, d'émissions de CO2. On n'est plus dans la fantaisie, en fait.
C'est peut-être global, ça, le côté d'épanouissement.
Oui, je pense.
Pas réservé l'automobile. Hein.
Et à côté de ça, on peut retrouver ça quand même. Hein. Il y a encore des vieilles voitures qu'on remet à jour. Il y a encore des voitures qui sont sympas. Il y a encore des gens qui se font plaisir et qui ont envie d'acheter la dernière belle voiture qu'ils n'ont pas pu avoir jusque-là. Mais c'est le monde de la distribution. Et vous parliez tout à l'heure de la confiance, on se tapait dans la main, ça n'existe plus, ni entre particuliers, ni entre professionnels. Il y a un contrat, il y a une date de livraison, il y a un état, il y a quelque chose de très administratif, pas très drôle en fait.
Ouais. Oui, et puis il y a des exigences qu'on n'avait pas non plus à l'époque. C'est vrai que la voiture, moi j'ai connu la voiture, enfin je ne suis pas si vieux que ça, mais j'ai connu la voiture comme un achat vraiment plaisir, quoi. C'était l'achat, j'ai envie de dire, de tous les 5 ans, on changeait sa voiture, ou voire peut-être même tous les 10 ans, on changeait sa voiture, et c'était un jouet. Hein,
c'est super part. Important, c'est un vecteur pour se déplacer, c'est un chez-soi dans lequel on est, et qu'on bouge.
Pour les garçons, c'était peut-être un jouet, enfin c'était les jouets qu'on avait quand on était enfant, et que là on achetait en vrai jouet, en grandeur nature.
On devenait un jeune adulte. Hein.
Pour mesdames, c'était aussi un achat plaisir, qui associait la beauté, la mode, l'esthétique. À aujourd'hui, c'est vrai que la voiture, comme tu le dis très bien, on parle plus de mobilité, d'obligation, on a des besoins qu'on est obligé d'assouvir. Voilà, on est obligé de... Bon, bref, il faut qu'on se bouge. Alors, allez, Renault, Citroën, Peugeot, bof.
La première question peut-être qu'il y a quand quelqu'un achète une voiture aujourd'hui, quel critère elle est ? Critère 1 ? 2, je peux aller là, pas là, alors que ce n'est pas encore une problématique qui existe réellement, mais c'est rentré dans l'état d'esprit. Est-ce que je vais être polluant ? D'ailleurs, la voiture d'occasion, c'est une fabuleuse base de l'économie circulaire. Voilà, pour
ce que vous dites, Alexandre, ça me fait sourire, parce que c'est vrai qu'on responsabilise aussi l'acheteur. Hein, je me souviens toujours, moi, on a dit les Français doivent rouler au diesel. Hein, c'était le mot d'ordre de l'État. C'était l'État disait, en France, si on veut être un bon Français, il faut rouler au diesel. Moi, j'ai connu ça quand j'étais gamin. Tout le monde avait ses 504 Peugeot. Enfin bon, tout le monde est roulé au diesel. Et puis 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, on nous dit qu'on est des vilains pollueurs.
On fait changer mon FAP, ça coûte une blinde.
Et qu'en fin de compte, c'est absolument scandaleux de savoir qu'on roule. On est un peu perdu, j'avoue qu'on est un peu perdu, mais bon, l'automobile restera toujours l'automobile. On a besoin d'automobile, et puis on a aussi besoin de se faire plaisir. Et non, on a besoin de se faire accompagner, parce que c'est vrai que l'automobile coûte cher, les réparations coûtent beaucoup plus cher qu'elles ne coûtaient auparavant. La transaction est compliquée. Peut-être que l'honnêteté à aujourd'hui est différente par rapport à d'autres périodes, et on a besoin, je pense qu'on a besoin à aujourd'hui de ne plus être seul quand on est en transaction.
Bon. Oui, ça me semble un élément déterminant. Après, on ne convainc pas tout le monde, mais il n'est pas rare, pour faire une petite anecdote, de voir des gens qui viennent nous rencontrer en disant « je vais facilement vendre ma voiture » et on les revoit 3 mois après.
Bon, Alexandre Ménard, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en 10-15 secondes, là, pour cette année 2024 qui se profile ?
Écoutez, on ouvre à Bergerac à Creil dans les jours qui viennent, donc c'est qu'on a confiance en notre métier, on sait qu'il est utile. On est quand même dans une conjoncture tendue et difficile, mais nous, on est optimistes et on aime quand les gens qui vendent leur voiture et qui ont leur chèque sourient, et que les gens qui l'achètent sourient et partent en confiance. Donc, allez, il faut pas être dans un monde trop compliqué.
Un entrepreneur qui réussit et qui se développe, c'est super.
Merci.
Patrice, à la semaine prochaine.
Merci, bien sûr, à la semaine. Et puis, merci, Alexandre,
merci, d'avoir
consacré ce bon moment à l'antenne.
Merci à vous,
et
merci
puis,
beaucoup.
Bonne chance pour cette ouverture de nouveau AutoEasy à Bergerac.
RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie, elle exige des trésors satinés.
doré à souhait.
RLP
Radio Libre en Périgord.